Bienvenue sur la chaîne Ambiance Architecture Urbanité AAU.
Première session du séminaire, consacrée à la place des ambiances dans les conflits armés et leur devenir, débute par une introduction de Noah Schumacher, suivie de l'intervention de Georges Abou Emrad sur les ambiances béroutines.
Merci à nos deux invités d'avoir accepté notre demande sur cette première session qu'on avait choisi d'intituler « La place des ambiances dans les conflits armés et leur devenir, les ambiances sont-elles la continuation de la guerre par d'autres moyens ?» Céline l'a précisé, mais cette session donc, avait été rajoutée au premier programme suite à l'actualité internationale et notamment à l'entrée des forces armées russes en Ukraine en février dernier. Dans cette session, nous proposons donc aux deux intervenants et intervenantes de questionner l'ambiance comme une arme de guerre, comme une expression sensible de la recomposition ou de la vulnérabilité des formes de vie, comme mode expressif de revendication et d'affirmation d'une identité. Nous nous demandons ce que nous apprend l'approche sensible sur la guerre, sur le conflit, sur les formes de domination ou encore d'exclusion. Et enfin, nous questionnons la manière dont l'analyse des ambiances dans un contexte de conflit permet de préciser leur pouvoir et leur efficace politique. Pour discuter de ces éléments, donc je passerai d'abord la parole à Georges, qui nous parlera de Beyrouth, son terrain de thèse. Georges Abou Emrad est donc architecte et il réalise son doctorat au sein de l'équipe Cresson. Il travaille sur la lutte des ambiances dans des quartiers enclavés et dits irréguliers de Beyrouth. Et aujourd'hui, il posera la question des ambiances comme nouvelle forme de mainmise des partis politiques sur les quartiers Ouzaï et Syriac de Beyrouth. Et ensuite, on entendra Perrine Poupin, qui est chargée de recherche également dans l'équipe Cresson. Elle discutera, elle, des villes ukrainiennes dans la guerre et sous occupation russe. Perrine fait du terrain depuis plusieurs années en Russie et en Ukraine. Elle y interroge les conflits de l'espace dans les mobilisations collectives et pense les relations entre espace et forme d'engagement. Avant de laisser la parole à Georges, je vous rappelle juste à tous les deux si à la fin de votre intervention, vous pouvez faire quelques mots pour nous présenter votre objet. Merci à toi, Georges.
Merci, Noah. Bonjour à tout le monde. Le titre de mon intervention, c'est « Les ambiances, une nouvelle forme de mainmise ». Les cas des quartiers Syriac et de Ouzaï, les deux quartiers qui sont les terrains sur lesquels je travaille pour ma thèse. Alors, malgré la bizarreté de l'énigme du déploiement des ambiances comme arme dans les conflits actuels, ceci reste une polémique qui réémerge systématiquement à l'aube de tout genre d'affrontements des puissances locales ou mondiales, internationales. Certes, l'ambiance devient et évolue en rapport avec ses composantes variables, mais elle garde quand même une sorte d'identité distinctive. Elle possède généralement des caractéristiques qui lui confèrent cette identité toute particulière et spéciale, qui la rend bien identifiable. Cette reconnaissance fait l'identité du lieu ou de l'espace, une identité jugée, modulable par les puissances politiques libanaises. Que serait alors le rôle des ambiances au cœur de ces conflits? Comment sont-elles mises en œuvre et exploitées? Les questions nous surplombent à chaque fois que nous tentons à déchiffrer ce phénomène. Pour mieux comprendre ce phénomène, je vous invite à voyager ensemble à Beyrouth, au Liban, plus précisément dans le quartier syriac et quartier de Ouzaï. En effet, le quartier syriac baigne dans un tissu majoritairement chrétien et demeure considérablement catéchisé par les partis chrétiens pesant de la région, notamment les forces libanaises. Historiquement, le quartier se présentait comme le fief des milices chrétiennes à l'époque de la guerre civile libanaise et leur fournissait hommes et logistique. À l'époque de la guerre civile libanaise, ça veut dire entre 1975 et 1990, c'est le moment où le pays est entré en une guerre civile dévastatrice. En revanche, le quartier d'Ouzaï, dont la population est à majorité chiite, reste fortement attaché aux valeurs et idéologies soutenues par et replantées par le duo chiite. Le quartier se considère comme l'un des boucliers les plus importants de cette alliance ou fusion politico-confessionnelle. Quand je parle du duo chiite, c'est les deux grands partis chiites au Liban, le Hezbollah et Amal, qui se sont en quelque sorte fusionnés pour créer ce qu'on appelle le duo shit. Et de cette façon, ils gardent leur mainmise sur la population chiite au Liban, du coup, qui mène à gouverner en quelque sorte et garder leur puissance politique, vu que le Liban est un système de consensus confessionnel démocratique. Okay. Malgré les nombreux éléments de dissimilitude, ces deux quartiers subissent aujourd'hui le même sort. Les partis politiques majoritaires dans ces régions occupent une place importante dans leur gouvernance. Ces partis participent au quotidien des habitants et au dessein de ces territoires. Ils participent aux mariages, aux fêtes religieuses, même à nos anniversaires. Ils sont présents partout, me confirme l'un des habitants du quartier syriaque. Comment cette influence originale demeure-t-elle établie par ces instances ? En effet, et pour mieux saisir ce phénomène, il me semble intéressant de disséquer la frise de l'évolution temporelle de cette mainmise. Véridiquement, au lendemain de la guerre civile libanaise, les nouveaux partis politiques qui étaient anciennement milices et qui se combattaient entre elles, cherchaient à redéfinir leur nouveau ancien territoire. Ils se confrontèrent à nouveau en une inédite lutte. Le pays semble de nouveau partagé en secteurs et zones d'influence incontestablement repérables grâce aux ambiances urbaines et architecturales. Des régions dessaisissent leur identité et épaulent une nouvelle. Des limites de tension se génèrent entre elles. Elles deviennent esclaves de ces ambiances forcées. En plus, la plupart des groupes engagés dans ce processus, ça veut dire les nouveaux partis politiques anciennement milices, désiraient garantir la transition d'une partie de leur communauté rurale vers les zones urbaines, notamment de la ville de Beyrouth. Elles devaient faciliter l'acquisition symbolique d'un périmètre social ou géographique au sein de ces zones, désormais déjà religieusement homogènes et stratifiées à cause des massives vagues d'exode durant la guerre civile libanaise, où les populations chrétiennes ont quitté Beyrouth Ouest vers Beyrouth Est, et la même chose pour les populations musulmanes qui ont quitté Beyrouth Est vers Beyrouth Ouest à cause des conflits. Et aujourd'hui, Beyrouth, elle est bien identifiable en deux Beyrouth, le Beyrouth Est qui est chrétien et le Beyrouth Ouest qui est musulman. Par souci de mise en place et en pratique de leur politique de mainmise et d'influence, les partis politiques libanais eurent recours aux ambiances architecturales et urbaines. Partant de la réalité que les villes manifestent ce qu'elles sont, les instances politiques interviennent dans la fabrication des identités de ces villes. Ceci s'avère réalisable en confectionnant, alimentant et soutenant une ambiance urbaine, sociale et architecturale propice au développement de communautés qui éprouvent les mêmes attachements sociaux, culturaux et politiques que leurs devanciers. Conséquemment, de génération en génération, les quartiers resteront sous l'influence des groupes politiques. La banlieue sud de Beyrouth, qu'on peut voir sur la diapo, témoigne de la réussite de cette politique de définition identitaire. De nos jours, le terme banlieue sud n'est plus utilisé par les Libanais pour désigner une simple région qui se situe au sud de la capitale libanaise. Le terme est plutôt employé par les Libanais pour désigner les régions à majorité chiite et sous la gouvernance du Hezbollah, peu n'importe leur localisation géographique. Alors, le terme banlieue sud s'est transformé en terme qui qualifie les régions sous gouvernance du Hezbollah, peu n'importe leur localisation, que ce soit dans la banlieue sud ou ailleurs. L'identité de la région de la banlieue sud où le quartier Ouzaï se localise demeure rattachée étroitement aux idéologies de son influenceur. D'autres régions aussi certifient de cette influence. Par exemple, le cœur... Je ne sais pas ce que j'ai fait. Pardon. Ok. Voilà. Le cœur du quartier syriaque, par exemple, reste épargné de toute initiative de requalification urbaine malgré les multiples initiatives entreprises dans le quartier depuis des années. Le bâti témoigne toujours des temps de la guerre dans cette partie du quartier. Des traces sont préservées partout dans le quartier, servant la politique de mainmise, une ambiance urbaine spéciale et confectionnée. En effet, le territoire demeure bien défini. Nous nous rendons compte rapidement que nous sommes dans la région influencée par les forces libanaises, des postes de prière contenant des symboles religieux chrétiens, comme des photos des martyrs décédés durant la guerre civile qui appartenaient aux forces libanaises, sont plantées sur la totalité du territoire. D'autres éléments architectoniques aussi sont plantés pour aider à confectionner cette ambiance urbaine. Par exemple, la photo, ce sont des croquis que j'ai prises durant mes travaux de terrain. C'est une photo du président défunt Bachir Jmeil, qui était ancien chef des milices des forces libanaises durant la guerre civile. On voit ça une grande photo. Il y a plein d'autres photos comme celle-là, plantée partout sur les immeubles, dans la rue, pour confectionner et aider à confectionner cette ambiance de mainmise. D'autres photos aussi, excusez-moi. Ce qui est écrit sur la photo, c'est en arabe « Thabitoun al-yawm linabqa ghadan », ce qui veut dire « Nous restons fermes aujourd'hui pour rester forts demain ». C'est des messages que les partis politiques envoient à leur population. D'autres éléments architectoniques aussi, on peut les voir dans les quartiers. Les photos, par exemple, du chef actuel des forces libanaises, Samir Jaja, ou par exemple la photo du cardinal Sfer, qui avait des affiliations politiques qui supportent les forces libanaises durant son mandat en tant que cardinal. Ce qui est écrit sur la photo du cardinal en arabe, Mithlahu, la yamutun, ma traduction personnelle, c'est les personnes comme lui ne meurent jamais ou ne meurent pas. Ces objets s'avèrent en forme et en fond une confirmation de loyauté et d'engagement populaire. Ils participent à la symbolisation comme la construction d'un imaginaire collectif, jugé parfois augmenté et infligé, qui réenchante certains souvenirs et mémoires. Ils soutiennent une ambiance spéciale du lieu. L'influence s'avère perceptible, dans le discours des habitants, avec qui j'ai réalisé des entretiens, des itinéraires et des parcours commentés. Un des habitants du quartier m'affirmait qu'elle pouvait raconter l'histoire de son quartier par un chant dédié au chef des forces libanaises à l'époque de la guerre civile. En plus, durant les itinéraires réalisés avec les habitants du quartier, de longues pauses devant les postes de prière et les traces de la guerre étaient remarquées. Un des habitants me dit « Ici, deux de mes camarades sont décédés. Ils les ont bombardés. » Une autre personne du quartier m'affirmait que les partis politiques recrutaient des gens du quartier, même des non-libanais. Le quartier appartient à eux. Ils décident... je suis en train de citer... elle m'affirmait que le parti politique recrutait des gens du quartier, même des non-libanais. Le quartier appartient à eux. Ils décident tout dans le quartier. Ils sont partout. J'ai quitté avec ma famille quand j'ai vu ma petite fille en train de chanter les hymnes des phalangistes à l'époque de la guerre. Elle n'avait que 8 ans. Les phalangistes, c'est un autre parti, c'est une autre milice qui s'est transformée en parti politique chrétienne après la guerre civile. À Ouzaï, par exemple, les partis politiques gouvernants, Amal et le Hezbollah, le duo chiite, aménagent l'espace urbain à leur guise, avec l'accord des instances publiques locales, malheureusement. On parle des municipalités du Hezbollah dans ces régions. Des symboles religieux et politiques sont plantés sur la totalité du territoire. Ceci demeure un signifiant de la culture régionale, malheureusement. Ici, on peut voir des photos une grande structure métallique à l'entrée de la ville qui annonce qu'on est dans la zone d'influence du Hezbollah et de Amal. Dans ce cas, c'est Amal, excusez-moi. On voit la photo du chef du parti, la photo de Al-Imam Moussa Sadr, l'ancien chef, le fondateur de ce parti, avec des messages religieux. Assalamu alaikum, il y a Aba Abdallah al-Hussein, ça veut dire on vous salue, notre cher. Pas prophète, je trouve pas le terme, excusez-moi, Al-Hussein. D'autres photos aussi, avec des drapeaux jaunes et verts qui deviennent les éléments les plus repérables dans ces régions. Le drapeau jaune, c'est le drapeau du Hezbollah, tandis que le drapeau vert, c'est le drapeau de Amal. On les voit partout, en plus des drapeaux rouges qui sont les drapeaux de ce qu'on appelle Al-Jihad, contre Israël. Alors c'est la défense en quelque sorte contre les agressions d'Israël. Ces éléments sont souvent porteurs de messages, de conseils, de rappels et parfois même de directives à la population locale. Ces icônes demeurent très répandues dans le périmètre de la recherche et constituent l'élément le plus utilisé de l'iconographie politique dans l'espace public. Ils participent au dessin de l'image et l'identité du territoire, voire du peuple. Je suis né là, j'ai grandi là et je mourrai là. Comment puis-je renoncer à mon passé, présent et futur? Comment puis-je être contre moi? La pierre parle, révéla un des habitants de la région. Je cite aussi, c'est grâce à eux que nous sommes toujours là. Voici par exemple un des types de postes qui sont plantés tout le long de la route principale qui mène au quartier Ouzaï. Les drapeaux, les photos, on voit aussi des petites photos, la petite photo de l'ancien chef de l'armée iranienne qui était... ça c'est compliqué. Attaqué slash assassiné pour ne pas prendre de... il était tué, assassiné par les États-Unis en Iran. Aussi, on voit ces photos au Liban. D'autres aussi... d'autres bannières qu'on voit aussi tout le long de la route qui mène de l'aéroport jusqu'à Beyrouth. C'est aussi une sorte de pouvoir et d'influence que les partis politiques sont en train de confectionner en ce moment. Aussi, je vous raconte une petite anecdote. En ce moment, vu qu'on est dans la saison estivale, l'État libanais a proposé si possible aux partis politiques démonter ces éléments qui sont plantés tout le long de la route. La réponse était pas un grand refus. On les enlève pas et on les laisse. Malheureusement, c'est ça. Pour finir rapidement ma présentation, je dirais que cette politique de mamie semble réussir pour le moment. Les partis politiques soutiennent une ambiance spéciale du lieu. L'ambiance se transforme en une arme assez importante dans le nouvel affrontement des partis politiques. Ils détiennent le secret de sa formule en lui injectant des nouvelles variables qui la constituent. Ces variables se transforment rapidement en constantes de cette formule. Ils détiennent en otage la population et grâce à l'ambiance qu'ils confectionnent et soutiennent. Nous parlons peut-être de la guerre froide des ambiances. Voici ma rapide présentation et intervention. L'objet que je vous propose, c'est un itinéraire, les paroles d'une des habitantes du quartier Syriac. Et je pense que les paroles des habitants sont l'un des objets les plus importants pour comprendre ce qui est en train de se passer en ce moment dans ces quartiers. Je vous remercie énormément et je te passe la parole, Perrine.
Peut-être avant de passer la parole, Perrine, on va prendre un petit quart d'heure pour discuter. donc si vous avez des remarques, des questions ou des réflexions à partager sur le travail que vient de nous présenter Georges, à vous la parole.
Jean Favreau, doctorant au Créneau. Georges, j'ai une question par rapport à ton enquête. Est-ce que c'est pas tabou de questionner les habitants comme ça par rapport à leur environnement urbain et par rapport à la propagande mise en place par les partis? Je ne sais pas si je connais pas du tout la culture politique du coin. Donc,
Oui et non. Il faut savoir comment demander les questions. Il faut savoir aussi, moi j'ai pris l'accord des partis politiques déjà qui influencent la région. J'ai pris leur accord pour déjà commencer mes itinéraires. Je ne pouvais pas les commencer avant. Et pour le moment aussi, je n'ai pas pu faire, ouais tu as raison, j'ai pas pu faire plein d'itinéraires dans le quartier Ouzaï vu que les Hezbollah refusent en ce moment que les habitants de cette région communiquent leurs propos. Mais est-ce un sujet tabou au Liban ? Non, mais c'est un sujet qui devient tabou s'il sort du Liban et il devient plutôt international. J'ai répondu à ta question. Très bien.
Bonjour, merci. Donc Marie-Paul Algan, je suis professeure à l'ENSA Nantes. Ma question, c'était sur finalement l'environnement sonore. Est-ce qu'il est décrit ? Est-ce qu'il est relevé ? Parce que souvent, ce sont des villes quand même assez bruyantes, si on peut dire, ou assez vivantes. Et comment est-ce que tu peux aborder cette question et comment tu le ressens ? Est-ce que tu enregistres ou voilà ?
Très bonne question. J'avais déjà fait une intervention sur comment repérer la précarité de ces régions grâce aux bandes sonores. Oui, on peut rapidement aussi se repérer qu'on est dans la région qui est gouvernée par les instances politiques. Quand on entend, par exemple, les hymnes de ces partis politiques qui sont partout, même dans les petits, dans les petites boutiques, quand on rentre dans une boutique à Ouzaï ou à dans la banlieue sud de Beyrouth, oui, c'est vrai qu'il y a toujours les hymnes du Hezbollah ou de Hamal. Il y a toujours les photos du chef du Hezbollah dans les boutiques. Oui, si vous voulez, l'ambiance sonore, on peut détecter cette forme de mainmise grâce à l'ambiance sonore aussi. Oui.
Merci, c'est Will Setin, doctorante au Créneau. Merci Georges, c'était une super présentation, j'ai trouvé très original et j'ai une question sur les lieux où sont affichés en fait tous ces éléments visuels, les drapeaux, voilà. Et j'aimerais savoir en fait si tu as fait un travail pour caractériser en fait ces types de lieux où sont affichés. Est-ce que par exemple, là il y a un drapeau qui a été mis par un parti devient un peu un lieu au lieu, peut-être, parce que ce lieu est le point où les gens regardent et comprennent.
Oui.
Mais les gens de l'extérieur, peut-être, pas les gens des habitants des quartiers.
Oui. Excuse-moi, est-ce que tu peux me rappeler de ta première question, parce que je l'ai
dit. Caractérisation des lieux en fonction des points où sont affichés en fait, les drapeaux ou les éléments visuels.
Ok. En gros, ces éléments sont placés partout dans l'espace public, peu n'importe l'espace. Que ce soit une installation métallique à l'entrée de la ville, que ce soit des grands panneaux avec des photos plaquées qui revêtent les immeubles de la ville, des quartiers et de la région. C'est plutôt, ils confectionnent l'espace public, mais ceci a certainement une influence aussi sur l'espace privé des gens. Comme je disais, quand on rentre dans une boutique, par exemple, c'est pas vraiment l'espace public, mais en même temps, on voit ces éléments qui sont présents. Et c'est ça, l'influence des partis politiques. Alors, quand ils confectionnent cette ambiance dans ces espaces publics, ceci a certainement des répercussions dans l'espace privé des habitants. Des photos de Hassan Nasrallah, des photos des anciens présidents, anciens chefs, des milices, on les voit partout. Alors, je t'ai répondu à ta première question, en quelque sorte. Très bien. Et pour ta deuxième question ? Ok, très bien.
Céline Bonico-Donato, enseignante à Grenoble. Merci beaucoup, Georges, pour cette présentation. Moi, j'avais une question pour te demander si, au-delà des personnes représentées, il y avait une différence d'esthétique entre ce qui est affiché selon les partis, donc notamment de couleur, peut-être, je ne sais pas. Est-ce que tu pourrais nous préciser ce point ? Merci.
Merci pour la question. Déjà, il faut que je note que ce travail est en relation avec le travail que je suis en train d'entamer pour ma thèse. Alors, ma thèse n'est pas en relation avec ce sujet en particulier. Oui, on voit une grande différence entre l'esthétique, mais je pense que c'est en rapport avec les idéologies religieuses aussi. Alors, oui, on ne voit pas trop la couleur dorée, par exemple, et verte dans les régions à majorité chrétienne. on va plutôt des couleurs orange, bleu, blanche, tandis que dans d'autres régions à majorité chiite, oui, on voit l'esthétique musulman. Les banners avec des écritures en doré, des banners, comme je disais, des drapeaux jaunes et verts, ce sont des couleurs aussi en relation avec la religion musulmane. Et du coup, c'est ça ce qui est important à comprendre au Liban. Quand on parle de parti politique, on ne parle pas de parti laïque, on parle de parti parfaitement religieux. Et certainement, il y a une différence esthétique pour représenter ces idéologies qui sont attachées religieusement. Voilà.
Mathilde Giraud, du coup, postdoctorante au Cresson. J'avais une question par rapport à l'esthétique de tes croquis, qui sont en noir et blanc, avec juste voilà, les couleurs pour faire ressortir tes éléments d'analyse. Mais vu que je ne connais pas le Liban, que de photos, du coup, des fois, j'ai du mal à me figurer aussi l'ambiance... voilà, visuel. Et est-ce que, par exemple, toi, du coup, tu fais vraiment ressortir les couleurs vertes, voilà. Mais est-ce qu'il y a d'autres couleurs dans la ville, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui ressort de manière très forte dans l'espace?
Merci. Merci pour la question. Déjà, il faut savoir que dans ces zones, ils n'ont pas subi des initiatives de requalification ou de réhabilitation. Alors, ce sont des zones qui sont sobres. De couleurs, si tu veux, d'une palette beige, blanche, pas de couleur. Et les éléments qui sortent vraiment, c'est les éléments de couleur que les partis politiques installent. Et je pense que c'est ça aussi l'intelligence de ces partis politiques, c'est le fait ne pas juste d'installer ces éléments, mais aussi de garder l'esthétique des bâtiments sobre. De cette façon, ces éléments ressortent. Et ce que j'ai essayé de faire dans mes croquis, c'est de, en quelque sorte, cacher, si tu veux, l'esthétique du bâti en tant que bâti, et voir vraiment les éléments qui sortent. Parce qu'à première vue, on ne voit pas le bâtiment. On voit la photo du chef des milices. Tu vois, quand la photo cache quasiment trois étages avec les balcons et les... Et les fenêtres, ben, on se pose des questions quand même. Mais je t'ai répondu à ta question.
Ah oui.
Très bien. Merci.
Jean-Paul Thibault, chercheur au Cresson. Merci beaucoup, Georges, pour ta présentation, vraiment très, très intéressante. Moi, je me posais la question, tu montres bien comment il y a un marquage du territoire par des signes, des traces, etc. Je me demandais s'il y avait des zones frontières entre les différents territoires religieux, s'il y avait des zones où se jouaient des négociations, des conflits, des tensions, en fait, sur où se situe mon territoire par rapport à l'autre.
C'est ça.
Quoi. Voilà.
Alors, merci pour la question. Au lendemain de la guerre civile, les territoires d'influence, ils ont certainement shifté. Et du coup, il y a eu un consensus entre les partis politiques pour définir leur territoire. Et oui, il y a eu un accord en disant que Beyrouth-Est, elle reste, bah, je le dis en franc-banais, Beyrouth-Est reste avec vous, les chrétiens, et Beyrouth-Ouest reste avec nous, les musulmans. Et chacun dans sa région, il s'occupe de la définition de son secteur d'influence. Alors, dans Beyrouth-Est, certainement, il y a l'influence des forces libanaises, l'influence des phalangistes, l'influence du camp patriotique libre. On voit tout ça. Et du coup, certainement, il y a des frontières, et je l'ai dit dans mon texte, il y a aussi des conflits dans ces frontières, si vous voulez. Par exemple, entre Chiyah et Ain Rmeni, ce sont deux villes côte à côte, une en Beyrouth-Est et l'autre en partie ouest, il n'y a qu'un grand boulevard qui les sépare. Et chaque deux semaines, il y a des conflits où l'armée libanaise est obligée d'intervenir pour séparer, disons, les deux Beyrouths. Et en quelque sorte, l'armée libanaise, elle participe aussi à la confection de cette ambiance, vu que cette zone, c'était la zone de démarcation entre Beyrouth-Est et ouest. Alors l'intervention de l'armée libanaise dans la zone, ancienne zone de démarcation, elle a aussi en quelque sorte un message en disant que, en quelque sorte, oui, vous êtes toujours en conflit, oui, il faut que vous défendez vos identités, oui, on est toujours en guerre. Alors.
Bonjour, c'est Grégoire Chelkov de l'école d'architecture de Grenoble. En fait, j'ai deux questions, parce qu'à propos des frontières, une année, on avait une étudiante qui avait travaillé sur un parc, justement, à Beyrouth. Je ne me souviens pas du nom. Et qui, justement, était au frottement des deux parties, on va dire.
Hajj Beyrouth.
Sans doute. Et justement, qui permettait aux populations d'un quartier et de l'autre d'aller dans le parc. Alors, je ne sais pas si c'est... Voilà, elle habitait Beyrouth, donc voilà. C'était déjà il y a quelques années, hein, ouais. 5-6 ans peut-être.
OK.
Voilà. Et puis, en fait, donc ça, c'est sur la partie justement des seuils ou frontières. Deuxième question, un peu plus... Toi, tu as l'air d'être neutre. Et comment tu construis ton discours de chercheur neutre dans cette situation très bipolarisée?
Je vous réponds déjà à votre première question. Vu que la deuxième, elle est un peu... elle est un peu piquante et on est enregistré ici, alors. Déjà, il faut savoir que Hajj Beyrouth, il est fermé depuis des années à cause de ça. Alors, on ne peut pas y accéder à ce grand parc à Beyrouth, l'un des poumons de Beyrouth. Et je pense qu'il n'était même pas retravaillé depuis la guerre civile. Et il est fermé. Alors, on ne peut pas y accéder vu qu'il y a trop de tensions. Pour répondre à votre deuxième question, je viens d'un pays où il y a plein de points de vue. Et du coup, parfois, il faut vraiment cacher son point de vue pour pouvoir vivre tranquille dans le pays. Et je pense que en quelque sorte, j'arrive à le faire. Et je pense que c'est nécessaire de le faire. Mais après, quand on peut discuter seul, loin du micro, je peux vous dire vraiment mon avis concernant ça.
On peut prendre une dernière question.
Merci Georges. Donc Pauline Ouvrard, je suis enseignante à l'école d'architecture de Nantes. Tu as utilisé le terme d'ambiance forcée dans ta présentation. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que c'est une notion que tu retrouves dans d'autres travaux ou comment tu l'utilises? Et depuis cette notion-là, est-ce que tu observes aussi des formes de résistance à ces ambiances forcées? Et si oui, comment tu les relèves? Qu'est-ce que tu en fais? Merci.
Le terme ambiance forcée, je ne l'ai pas trouvé autre part. Moi aussi, je voulais proposer ambiance menottée. Mais je trouvais que le terme menotté, il est un peu trop dur en ce moment. Et du coup, j'utilise le terme ambiance forcée. Oui, l'ambiance est forcée parce qu'il y a des habitants qui ont quitté à cause de ça. Alors du coup, ils n'étaient pas d'accord de ce type d'ambiance, surtout après la guerre civile. Alors on voit que l'une des habitantes, ancienne habitante du quartier, elle me disait qu'elle a quitté une fois qu'elle a vu sa petite fille de 8 ans en train de chanter les hymnes politiques des partis politiques dans la rue. Est-ce qu'il y a une résistance? Là, je suis plus neutre. Il y a une résistance dans les parties chrétiennes beaucoup plus importante que la résistance dans les parties musulmanes. Et ceci est dû à l'appropriation des parties musulmanes de armes et d'armées. Et du coup, ça facilite l'imposition de leur idéologie et façon et manière de faire.
Mais ma question, en fait, c'est est-ce que cette résistance s'exprime en termes d'ambiance, en fait?
Non.
Non.
Pas du
D'accord.
tout.
Okay.
C'est interdit, complètement interdit. Déjà, l'État, il peut pas intervenir pour demander d'enlever les photos ou les trucs comme ça. Alors, pour le peuple qui est déjà sous l'influence et déjà sous la mainmise, c'est un peu difficile s'il n'y a pas une intervention extérieure pour le soulever de son délire, en quelque sorte. Ah, là, je suis...
Merci beaucoup, Georges.
Merci à vous. Oh, c'est gentil.